Le mari, le vicomte et le jardinier, c'est le trio insolite d'une affaire dont on a beaucoup parlé en 2008 et qui s'est soldée le 24 novembre 2011 en appel par la condamnation définitive à 20 ans de réclusion criminelle de Jean-Michel Bissonnet. Jean-Michel Bissonnet, c'est un riche homme d'affaires de la région de Montpellier qui a été donc reconnu coupable d'avoir commandité l'assassinat de sa femme Bernadette, ancienne pharmacienne, exécuté de 2 balles de fusil de chasse avec la complicité, toujours selon la justice, d'un de ses employés, le jardinier de sa propriété, Méziane Belkacem, et d'un vieil ami de la famille, un octogénaire, le vicomte Amaury d'Harcourt, qui se serait chargé, lui, de faire disparaître l'arme du crime. Le 8 mars 2008, dans la soirée, Jean-Michel Bissonnet rentrait d'une réunion du Rotary Club. Il avait alors découvert le corps sans vie de sa femme dans leur luxueuse propriété de Castelnau-le-Lez. Après une enquête très rapide et les aveux du jardinier et du vicomte, désignant M. Bissonnet comme commanditaire, 3 procès successifs ont confirmé sa condamnation. Le jardinier, lui, a été condamné à la même peine de 20 ans de réclusion et le complice octogénaire, lui, avait écopé de 8 ans de prison. Alors il faut dire aussi que depuis le début de cette affaire, Jean-Michel Bissonnet a toujours clamé son innocence, nié toute culpabilité. On n'a d'ailleurs jamais pu découvrir le mobile qui l'aurait conduit à vouloir se débarrasser de sa femme. Et pour se défendre, il a lui-même accusé le jardinier et le vicomte, tous deux aux abois financièrement, selon lui, d'avoir peut-être profité de son absence pour cambrioler sa propriété. Mais ils auraient été surpris par Madame Bissonnet et l'auraient alors abattu pour éviter d'être dénoncé. En liberté conditionnelle depuis 2017, Jean-Michel Bissonnet, qui a fait 9 ans de réclusion, a décidé de demander maintenant à la commission de révision des condamnations pénales de lui ouvrir la voie vers un nouveau procès pour faire reconnaître son innocence. Pour cela, il est soutenu par un avocat du barreau de Lyon, maître Sylvain Cormier, par un enquêteur privé, le criminaliste Roger Marc Moreau, qui sont les invités de l'heure du crime. Voilà, vous savez tout, on se retrouve dans un instant.
20h-21h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de L'Heure du Crime, une émission qui a été soigneusement préparée par Justine Vigneault avec Emilien Vinet. Et c'est Marc Bisset qui est à la réalisation technique de cette émission, au cours de laquelle nous allons d'abord revenir sur une affaire assez ancienne, donc la mort d'une ancienne pharmacienne dans une propriété luxueuse pas loin de Montpellier, l'accusation de son mari dénoncé par un jardinier et un vicomte, un noble octogénaire, ami de la famille, et puis ensuite une sorte de saga judiciaire qui va se terminer après 2 procès et demi par une condamnation définitive à 20 ans de prison de celui qui a abattu cette femme de 2 balles de fusil, le jardinier, et puis 20 ans également pour le mari, Jean-Michel Bissonnet, accusé donc d'avoir été le commanditaire de l'affaire. Maintenant, bien sûr, l'actualité dans cette affaire, c'est que Jean-Michel Bissonnet, qui a effectué, je crois, 9 ans de réclusion, a été en 2017 mis en liberté conditionnelle. Eh bien, il demande à la justice de lui offrir la voie d'un autre procès pour faire reconnaître son innocence, parce que depuis le début de l'affaire, il a toujours dit qu'il n'était pour rien dans cette affaire et qu'il avait été à la fois dénoncé et condamné à tort. Alors pour en parler, Michel Marie, journaliste au Nouveau Détective, on a compris en écoutant le résumé rapide de cette histoire qu'elle a dû intéresser vos lecteurs, et vous connaissez particulièrement bien ce dossier.
J'ai suivi les procès de ces 3 accusés. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure.
Oui, mais et puis vous avez aussi rencontré ces personnages.
J'ai surtout rencontré Amaury d'Harcourt à une période où il était en liberté, après le premier procès.
Après le premier procès. Alors on en reparlera tout à l'heure. Maître Sylvain Cormier du barreau de Lyon est avec nous. Et merci d'avoir accepté de venir parler de ce qui n'existe pas encore, puisque maintenant c'est un processus qui s'engage, si j'ai bien compris. Vous êtes l'avocat de Jean-Michel Bissonnet. Et qu'est-ce que vous avez s'apprêtait à faire. Alors comment on fait pour revenir sur tout cela après un feuilleton judiciaire aussi d'aussi nombreuses années?
Oui, c'est terrible parce qu'en fait, on va se lancer dans ce qui ressemble à un marathon, un nouveau marathon judiciaire. Alors qu'aujourd'hui, Jean-Michel Bissonnet est libre, il a obtenu une libération conditionnelle.
Oui.
Mais c'est un homme qui refuse.
Enfin, aurait pu décider de se laisser, de se faire oublier maintenant.
De se faire oublier. Ouais. La vie était confortable pour lui. C'est un homme qui refuse le principe de cette condamnation. Il est innocent. Il va se battre jusqu'au bout.
Mmh.
Donc je suis saisi pour lancer un processus de révision. Et la loi a changé depuis peu. On peut faire les choses différemment. Avant, on devait quasiment arriver
avec un fait nouveau,
avec un fait nouveau qui prouvait quasiment. Hein, c'était pas dit, mais c'était ça et qui prouvait l'innocence. Et on enquêtait pour voir si c'était bien sûr.
Ouais.
Donc personne n'y arrivait ou presque.
Ouais.
Et aujourd'hui, on peut faire des demandes d'actes au procureur de la République. On peut lui dire, monsieur le procureur, vous n'avez peut-être pas analysé tel prélèvement ADN, ou alors l'analyse à l'époque ne donnait rien. Aujourd'hui, la science a évolué, etc.
Et vous le demandez parce que ce sont des éléments qui pourraient prouver l'innocence donc de votre
client. C'est la démarche qu'on va
faire. Alors on reviendra sur tout ça très en détail tout à l'heure. Alors on va faire une première pause et dans quelques instants, pour que nous sachions tous de quoi nous parlons, je vais vous rappeler en quelques minutes dans quelles circonstances cette affaire a éclaté en 2008.
L'heure du crime. Jacques Pradel sur RTL.
Nous sommes le 11 mars 2008. Ce soir-là, Jean-Michel Bissonnet, un riche pied-noir en retraite, rentre chez lui dans sa luxueuse villa des environs de Montpellier après une soirée passée au Rotary Club. Vers 22h30, il appelle le 17. Il vient, dit-il, de découvrir dans l'entrée de sa villa de Castelnau-le-Lez le corps sans vie de son épouse Bernadette, abattue de plusieurs coups de fusil de chasse. Les gendarmes arrivent sur les lieux quelques minutes plus tard. Ils sont intrigués tout de suite dès leur première constatation, car le mari de la victime semble avoir tenté, avant d'appeler les secours, de laver avec une serpillière certaines traces de sang. Les enquêteurs relèvent également sur la scène du crime un élément qui va s'avérer déterminant, un ongle et un morceau de chair qui n'appartient pas au mari. Trois jours plus tard, coup de théâtre. L'homme à tout faire du couple, un fils de Harki, Méziane Belkacem, qui lave les vitres et s'occupe à l'occasion de tondre la pelouse de la propriété, est convoqué à la gendarmerie. Il se présente alors en dissimulant maladroitement son bras gauche et surtout son pouce, dont l'ongle est manquant. Interrogé, il avoue finalement être l'auteur des coups de feu mortels. Et il explique aux enquêteurs qu'il s'est blessé en manipulant le fusil de chasse à canon scié qui a servi à l'assassinat. Il a, dit-il, tué l'épouse de Jean-Michel Bissonnet contre une somme de 30 000 euros. Il est placé en garde à vue, puis confronté à son employé. Jean-Michel Bissonnet nie, bien sûr, et parle de chantage. Le 24 mars 2008, sur RTL, notre correspondante à Montpellier, Aline Thibal, revient sur les dernières déclarations du jardinier.
Dans le quartier huppé de Castelnau-le-Lez, derrière les murs d'enceinte de leur immense propriété, eh bien les plus proches voisins du couple Bissonnet préfèrent se taire, tout comme ici les relations, les amis de l'homme d'affaires au Rotary Club par exemple, partagés entre stupeur et incrédulité. Ce scénario pourtant, les enquêteurs eux y croient, décrit comme une personne frustre. Pour eux, le jardinier ne peut pas l'avoir inventé ni élaboré tout seul. Belkacem était fasciné par son patron, totalement dévoué à confier le procureur, alors quand il lui a demandé d'exécuter sa femme contre 30 000 euros. Il n'a pas hésité. Ce jour-là, il m'a remis un double des clés du 4x4 de son épouse, la télécommande du portail, le fusil de chasse, mais pas l'argent, explique le jardinier. Cette version, donc, lors d'une confrontation avec Jean-Michel Bissonnet, le jardinier l'a maintenue. Faux, a rétorqué l'homme d'affaires imperturbable durant sa garde à vue. Belkacem a tué ma femme et me fait aujourd'hui plonger pour se venger. Il m'avait demandé un prêt, je lui avais refusé. Version donc aujourd'hui, et pas de preuves formelles contre l'homme d'affaires, et surtout beaucoup de zones d'ombre. L'arme du crime par exemple et la télécommande du portail ont disparu. Une troisième personne serait-elle impliquée dans ce meurtre, s'interrogent les enquêteurs. De coups de théâtre en rebondissement, et bien cette étrange affaire n'a peut-être pas fini de surprendre.
Deux mois plus tard, le 8 mai 2008, l'enquête s'accélère. En effet, un nouveau témoignage vient resserrer l'étau autour du mari de la victime. Un ami intime de Jean-Michel Bissonnet, le vicomte d'Harcourt, explique que c'est lui qui a fait disparaître l'arme du crime qu'on n'avait pas retrouvée. Et il dit qu'il a jeté ce fusil dans une rivière et on la retrouvera sur ses indications. Nous sommes maintenant le 17 septembre 2009. L'avocat de Jean-Michel Bissonnet, incarcéré dans l'attente de son procès, a fait une demande de libération conditionnelle de son client. La justice laisse entendre que la réponse sera négative, au motif que cette libération constituerait un trouble à l'ordre public. Et l'un des fils de l'accusé, Marc Bissonnet, fait alors réaliser un sondage d'opinion sur la ville de Montpellier, sondage qui scandalise bien sûr les autorités judiciaires. Marc Bissonnet explique son initiative au micro RTL d'Aline Thibal.
Sur 500 personnes interrogées sur Montpellier, plus de la moitié n'aurait rien trouvé à redire à la libération de notre père, explique Marc Bissonnet pour justifier ce sondage. C'est notre réponse face à une justice aveugle et sourde qui nous brandit depuis 18 mois un risque de trouble dans l'opinion, un trouble à l'ordre public s'il était libéré, notre manière à nous aujourd'hui de nous faire entendre.
On n'a pas du tout essayé de faire pression. Le problème c'est que nous on nous oppose quelque chose qui est trouble à l'ordre public. Bon, en tout cas on nous dit ça choque l'ordre public. Et nous, on allait voir les habitants de Montpellier. Les gens disent, nous ne sommes pas choqués par la possible mise en libération de Jean-Michel Bissonnet. Déjà, on parle de nous, la preuve, on parle de notre cas, en espérant que ça remonte jusqu'à la ministre. Donc, c'est tout ce qui nous intéresse aujourd'hui. On rentre en guerre, quoi.
C'est effectivement le droit de la défense, admet de son côté le procureur de Montpellier, Brice Robin. Mais là, quand même, dit-il, on est en pleine dérive.
C'est pas en train d'élire quelqu'un, là. Hein. Moi, je trouve ça hallucinant. C'est plus de la justice pour moi, c'est surréaliste. Pour moi, c'est n'importe quoi. La défense a le droit de faire ce qu'elle veut, c'est normal. Et la défense a le droit d'être de mauvaise foi. Ben là, elle produit un document que nous, on trouve choquant, c'est tout, parce que la justice, c'est pas ça. La justice, si ça doit être ça, effectivement, on peut s'interroger sur notre démocratie.
Et comme prévu, bien sûr, la justice s'oppose à la libération conditionnelle de Jean-Michel Bissonnet. Celui-ci restera emprisonné jusqu'à l'ouverture de son procès le 27 septembre 2010. Et sur RTL, Aline Thibal rappelle à cette occasion les faits et les nombreux rebondissements qui se sont déroulés jusqu'à ce 27 septembre.
Trois hommes, trois univers pour un meurtre et deux versions qui s'affrontent. Celle du jardinier, Méziane Belkacem. Il a tiré, il a tué sa patronne, mais à la demande, dit-il, de Jean-Michel Bissonnet contre 30 000 euros et surtout la promesse de son amitié. Un scénario corroboré par le vicomte Amaury d'Harcourt, 85 ans, vieil ami de l'homme d'affaires. Selon lui, Jean-Michel Bissonnet projetait depuis longtemps déjà de faire tuer son épouse et par amitié, là encore, il l'aurait aidé dans son scénario machiavélique. Reste celui qui est au cœur de cette affaire, Jean-Michel Bissonnet, 63 ans, sa femme était riche, lui il est tout autant. Et depuis 30 mois, il clame son innocence, derrière lui ses deux fils, mais aussi son beau-père, le père de Bernadette, font bloc, dénonçant eux un complot, une cabale ourdie par Belkacem et d'Harcourt. Dans ce procès, où il n'y a ni preuve matérielle ni mobile sérieux contre l'homme d'affaires, 120 témoins vont défiler à la barre. Dans moins d'une heure donc, le rideau va se lever, mais ici, ce n'est pas une pièce de théâtre, mais un assassinat qui va être jugé.
Et dès le deuxième jour des débats, les enfants de l'accusé ont laissé éclater leur amertume. Pour eux, leur père est innocent et ils le clament haut et fort. C'est dans cette atmosphère passionnelle que le 1er octobre 2010 a lieu, en pleine audience, un énorme coup de théâtre. L'avocat général interrompt les débats. Il vient de recevoir, dit-il, des documents qui prouvent que Jean-Michel Bissonnet a tenté d'obtenir un faux témoignage destiné à l'innocenter. Le lendemain matin, Aline Thibal raconte cette scène inédite qui s'est déroulée la veille donc pendant le procès et ce procès va être suspendu et reporté à l'année suivante.
Jean-Michel Bissonnet avait tout planifié depuis sa cellule. Ce détenu devait dire qu'il connaissait bien le vicomte Amaury d'Harcourt, que ce dernier lui aurait proposé d'abattre Bernadette Bissonnet. Bissonnet lui avait même dessiné un plan de la maison du vicomte pour qu'il soit crédible. 15 pages de détails sur la vie de d'Harcourt. Un scénario machiavélique a fustigé l'avocat général. Bissonnet a bien tenté de se justifier. « J'ai fait ça par désespoir », affirme-t-il, dans un prétoire interloqué. K.O. debout, ses avocats ont préféré le lâcher parce qu'il nous a trahis, explique Maître Darrigade.
Nous nous sentons trahis. Nous avons défendu M. Bissonnet jusqu'au bout de nos forces. Nous l'avons également défendu contre lui-même. Il n'a malheureusement pas suivi certains de nos conseils. On le renvoie à sa conscience. On ne peut que le laisser trouver un nouveau défenseur.
Pour un nouveau procès donc prévu dans 3 mois, mais d'ores et déjà, Bissonnet n'est plus crédible, martèle l'avocat du frère de Bernadette qui s'était constitué partie civile, Maître Jean-Robert Fung.
Comment voulez-vous qu'il apparaisse innocent la seconde fois? Il instrumentalise son entourage. Il instrumentalise son beau-père. Il instrumentalise ses 2 enfants. Il instrumentalise le cercueil de sa femme. Ce type, il n'y a que lui qui compte. Il est le centre du monde. Les autres n'existent que s'ils lui sont d'une quelconque utilité.
Et à l'issue du procès, Jean-Michel Bissonnet est condamné à 30 ans de prison. L'avocate de la famille Bissonnet, Maître Raphaël Chalier, réagit, vous allez l'entendre, à l'annonce du verdict et elle explique à quel point les enfants de Jean-Michel Bissonnet sont effondrés.
Comment vont les enfants? Très mal. Ils ont reçu un coup de massue derrière la tête, ils sont effondrés. Ils avaient l'intime conviction de l'innocence de leur père. Celui-ci vient d'être déclaré coupable, condamné certes à des réquisitions moins lourdes et à une peine moins lourde que les réquisitions puisque c'est quand même 30 ans de réclusion criminelle. Ce combat va continuer. Je pense qu'il y aura un appel et ils vont devoir continuer à avancer. C'est redoutable.
Un verdict considéré en revanche comme juste par l'avocat du frère de Bernadette Bissonnet. Jean-Michel Bissonnet, dit-il, est sorti du box comme il y est rentré, en hurlant, en invectivant, il ne s'est jamais défendu.
Et bien sûr, Jean-Michel Bissonnet, qui continue à clamer son innocence, fera appel de cette décision. En 2011, il sera condamné à 20 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de l'Aude à Carcassonne. Et maintenant, il demande la révision de son procès. Nous en parlons avec mes invités dans quelques instants.
Jacques Pradel sur RTL.
Alors nous allons maintenant parler avec mes invités. Nous allons revenir sur différents éléments de cette histoire, mais il fallait se la remettre en tête dans un petit instant avec Maître Sylvain Cormier du barreau de Lyon, donc qui va porter pour Jean-Michel Bissonnet cette demande de révision. Il y a un long chemin à faire, peut-être des actes à demander à nouveau au juge, puisque la loi le permet maintenant. Il va nous expliquer tout ça en détail dans un petit instant. Mais d'abord, Michel Marie, évidemment, vous avez suivi cette histoire, vous avez rencontré un certain nombre de protagonistes de cette affaire, et notamment ce vicomte Amaury d'Harcourt, octogénaire, enfin assez vert d'après tous les témoignages. Et cet homme, vous l'avez rencontré, je crois, après le premier procès, ou enfin à un moment où il était en liberté, et il a accepté de vous recevoir et de parler avec vous.
Oui, tout à fait. J'ai rencontré Amaury d'Harcourt juste après le premier procès qui a été renvoyé pour suite à cette
incident dont on parlait tout à l'heure, voilà,
de subornation de témoins. Ouais. Donc, il est rentré chez lui du côté de la Sologne et il habitait un endroit très étonnant. C'est un petit peu un village gaulois. Ouais. Il y a un terrain gigantesque. Je crois que c'est plusieurs centaines d'hectares, entièrement clos, et un château. Et après, plein de petites maisons. Mmh. Et Amaury d'Harcourt habitait dans une de ces maisons. Mmh. Et il avait accepté de me recevoir. On avait un peu sympathisé, on avait un peu discuté pendant le procès. Et donc, de façon un peu exceptionnelle, il m'avait accordé une interview. On avait passé la journée ensemble. Et c'est vrai que ce personnage n'était pas a priori destiné à finir dans un box dans une cour d'assises. Mais c'est vraiment un type complètement farfelu. Enfin, il est complètement atypique. Il a été l'organisateur des chasses de Giscard d'Estaing à une époque. On lui a vaguement prêté un passé d'agent secret au SDEC à l'époque. Ouais. Et il était le copain de Bissonnet depuis une quarantaine d'années. Et il se retrouve mis en examen pour complicité d'assassinat dans cette affaire.
Et il dira toujours que lui, il était monté dans cette affaire, si j'ose dire, pour donner un coup de main, pour aider et pour faire disparaître l'art du crime qu'il avait jeté dans une rivière.
Il vient à l'amitié. Il vient à l'amitié.
Et vous confirme tout ça quand vous parlez avec lui.
Là-dessus, il ne faut aucune difficulté. Ouais. Bon, il accable un peu Bissonnet, il accable également Belkacem, enfin Méziane Belkacem.
Qui lui a tiré,
d'ailleurs, il le reconnaît. Et puis, il laisse surtout un morceau de doigt sur la scène de crime, puisque c'est un canoncier, et Méziane Belkacem, quand il tire, a son doigt devant le canon, et quand le coup part, évidemment, le doigt est un petit peu endommagé. Oui. Et c'est ce qui permettra d'ailleurs aux enquêteurs de le confondre via l'ADN, et puis via surtout le pansement qu'il a au doigt. Alors lui, Méziane Belkacem, c'est un type très simple, dans une situation pécuniaire difficile, complexe, et qui voue une espèce de reconnaissance éternelle à Bissonnet, parce que Bissonnet est pied noir, et donc il y a cette collusion entre Méziane Belkacem et Bissonnet. Ils se parlent, Bissonnet est le seul à lui offrir un café, à lui demander comment il va. Enfin, ce type est dans une solitude épouvantable.
Il l'accuse quand même d'avoir été le commanditaire du
crime,
quand même.
Oui. Mais à cette époque-là, et c'est probablement pour ça, si Bissonnet était coupable, c'est probablement pour ça d'ailleurs qu'il accepte, que Méziane acceptera d'exécuter, enfin c'est ce qu'il explique en tout cas. Mais pour en revenir à tous ces personnages...
Et vous avez confirmé qu'il n'avait pas touché un centime.
Alors moi je n'ai pas rencontré Méziane Belkacem, parce que lui il était incarcéré, donc il n'était pas libre au moment du procès.
Mais alors vous disiez tout à l'heure que Méziane Belkacem, lui, avait des gros problèmes d'argent, et le vicomte aussi, il roule pas sur l'or, à cette époque.
Alors, le vicomte, un détail truculent, sa fille est venue déposer à la barre, sa propre fille, et il vient donc d'une famille assez aisée, il y avait beaucoup de biens, beaucoup d'argent, et sa fille dira de lui, il a réussi une seule chose dans sa vie, c'est à nous ruiner complètement.
D'accord.
Voilà. En gros, le portrait...
Paix à son âme, cet homme est décédé.
Paix à son âme, c'était un type très drôle et très...
Mais en tout cas, vous rencontrez ces personnages, et alors, évidemment, vous n'avez pas de conviction, vous n'avez pas fait l'enquête, mais il vous confirme, enfin, lui, il vous confirme quand même que Jean-Michel Bissonnet est vraiment le commanditaire de cette affaire. Quoi.
C'est ce que disait Amaury Darcourt, c'est également ce que disait Méziane Belkacem, sauf qu'il ne le disait pas à moi. Il l'a dit à la cour d'assises.
Et maître Sylvain Cormier, puisque vous êtes entré évidemment dans ce dossier, comment vous l'avez lu, relu, etc. Comment vous expliquez ça? Parce que Jean-Michel Bissonnet va dire, lui, il a une autre lecture des choses. Lui dit, ces deux-là, Amaury Darcourt, mais je ne sais pas ce qu'ils ont de commun, et le jardinier, vont aller faire en sorte un cambriolage en son absence, puisque lui est au Rotary Club ce soir-là, et ce cambriolage aurait mal tourné. C'est ça sa version ?
Oui, mais il va mettre très longtemps à comprendre ça. Parce qu'au départ, il ne parle pas du tout de Darcourt, il n'imagine pas un seul instant que Darcourt, son ami, est mêlé à ça. Pas une seconde. C'est Darcourt qui va plonger tout seul dans le dossier. Parce qu'il est dans un repas avec des amis, ce soir-là, et il les plante, il leur dit, il faut à tout prix que j'aille chercher ma polaire, j'ai oublié ma polaire, il faut que je la récupère au domicile de mon ami Bissonnet. Ouais. Et il part au milieu de la nuit, à 21h, à une heure qui correspond à l'heure du crime. Et il revient. Et ça va être mentionné, il va en parler. Les gendarmes disent, tiens, c'est curieux, ils vont vérifier ce trou dans l'emploi du temps et ça va correspondre. Donc Darcourt plonge un peu tout seul dans le dossier. Jean-Michel Bissonnet va parler, lui, de Méziane, parce qu'il a un doute. Il va dire, je me demande si c'est pas mon... En fait, on l'a appelé le jardinier, etc. Oui. Il venait laver les vitres deux fois par an. Voilà. Ouais, mais pas vraiment l'homme à tout faire, ce qui ça suppose une constance, une présence constante d'un...
Il faisait parfois de petits travaux.
Il faisait des travaux deux fois par an. C'était à peu près... Méziane dit ça, et Jean-Michel Bissonnet dit ça.
Ouais, d'accord.
Donc, il vient deux fois par an pour faire laver les vitres, une remise un peu à nettoyage de la maison. Et il lui demande de l'argent pour acheter une voiture. Et Jean-Michel Bissonnet dit non. Non, non, je ne vous prends pas d'argent, etc. Donc lui, il va dire, écoutez, je me demande s'il n'y aurait pas... Est-ce qu'il n'aurait pas voulu prendre...
C'est lui-même qui incite...
Et qui en parle ?
Les gendarmes, donc, à aller s'intéresser au cas
de Méziane Belkacem. Et moi, quand je découvre ça, sachant que Méziane Belkacem s'est blessé sur la scène de crime, si c'est Bissonnet qui l'a commandité, il le sait. Donc, s'il le mentionne, va être découvert tout de suite. Il ne peut pas en parler.
Alors, c'est une première piste à suivre. Il y en a d'autres. J'imagine que vous ne pouvez pas tout dévoiler des demandes que vous allez faire à la justice, mais vous allez nous expliquer dans un instant quel chemin vous allez prendre et comment vous allez convaincre, vous l'espérez en tout cas, Jean-Michel Bissonnet également l'espère, convaincre la commission de révision des condamnations pénales de lui donner la chance d'un autre procès pour prouver son innocence.
retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Alors nous retrouvons Michel Marie et Maître Sylvain Cormier. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, Maître Cormier, c'est que vous êtes donc, je le disais ça, du barreau de Lyon. Vous êtes également le président du projet Innocence Project France. C'est un collectif d'avocats, mais il y a aussi maintenant des magistrats et peut-être des policiers aux États-Unis en tout cas, qui se sont donnés pour mission de sortir de leur situation des personnes condamnées à tort. Et donc, vous êtes l'antenne française. Donc, je suppose qu'avec cette autre casquette, si vous occupez du cas de Jean-Michel Bissonnet, c'est parce que vous avez quand même une... Vous ne vous battriez pas pour quelqu'un dont vous pourriez penser qu'il n'a pas été condamné à tort.
Oui, et puis je crois que la situation de ces personnes qui ont été définitivement condamnées, qui ont tout perdu... l'amour de leurs proches, c'est très compliqué comme situation, qui sont désespérés et qui sont accusés. Pour Jean-Michel Bissonnet, il est accusé du pire. Sa femme, il l'aime encore et il est accusé de l'avoir tué. C'est insupportable pour lui, c'est une brûlure. Et le fait que ces personnes n'aient plus aucune chance, ou presque plus, c'est une situation qui me touche particulièrement.
Alors, évidemment, c'est très difficile parce qu'il y a dans cette affaire, j'imagine, un faisceau d'éléments qui ont emporté l'intime conviction des jurys, puisqu'il y a eu plusieurs procès. Alors, qu'est-ce que vous apprêtez à faire pour remonter la pente ?
Alors, est-ce qu'il y a eu un faisceau de présomption ? Je crois pas. Il y a eu deux personnes. Il y a eu Méziane qui a dit « moi, j'ai fait ça sur ordre », et Darcourt qui a dit « moi, j'ai fait ça pour rendre service ».
Mais il y a eu une accusation, il y a eu des plaidoyers,
bien sûr,
et il y a un jury quand même
rien
populaire.
Venu, rien d'objectif n'est venu étayer ces dires.
D'accord.
Et moi, j'ai de bonnes raisons de penser, d'abord, que ça ne tient pas du tout. Je pense que ça ne correspond pas du tout à la psychologie profonde de Méziane, en tout cas telle qu'elle est décrite par les témoins entendus dans le dossier, sa femme, son fils, ses amis, qui disent « cet homme, ça, c'est pas un tueur à gages, c'est pas quelqu'un qui va tuer ». Ça correspond pas à la psychologie de Jean-Michel Bissonnet de solliciter quelqu'un qu'il connaît pas beaucoup, lui promettant de l'argent mais ne le payant pas. Enfin, c'est quand même une situation. D'aller mentionner son nom ensuite pour qu'on aille l'interroger alors que cette personne est blessée et qu'on va tout de suite voir qu'elle est impliquée. Il y a quelque chose qui tient manifestement pas la route. Moi, si on me demandait ma conviction personnelle, j'ai l'impression que c'est un accident qui a mal. Quand je dis un accident, c'est
un accident.
Moi, je pense que c'est un vol qui tourne mal, un peu branquignolesque au départ. Et
alors, je vous ai pas posé la question. Est-ce que Méziane Belkacem connaît le vicomte d'Harcourt?
Oui, ils se connaissent, on le sait, mais depuis peu, et on a retrouvé des contacts téléphoniques la veille, donc c'est quand même pas anodin.
Ils se sont vus qu'une fois.
Oui, hein. Oui. Mais Darcourt dit à Méziane, je vais t'embaucher, enfin bon, rien.
C'était un peu la faiblesse d'ailleurs, oui, si je peux me permettre d'intervenir à ce moment-là, c'était un peu la faiblesse de la défense et de cette théorie, c'est que Amaury Darcourt et Méziane Belkacem se sont vus la veille des faits. Ils ne se connaissent pas, on ne retrouve pas de traces d'appel entre les deux.
En dehors de la veille.
Et alors franchement, quand on parle d'un attelage original, là, le vicomte et le jardinier, c'est juste improbable.
C'est juste improbable.
Ils ont rien à faire ensemble, ces deux-là.
Ils ont un point commun, ils ont besoin d'argent et ils savent qu'il y en a dans le...
Il y en a quand même un qui est l'ancien responsable de la chasse de Giscard d'Estaing et l'autre qui est jardinier, qui parle très mal français.
En dehors du fait que c'est l'ancien responsable des chasses du président Giscard d'Estaing il n'a pas fait très longtemps. Oui, d'abord il n'a pas fait que ça. Et ensuite, pourquoi on aurait besoin d'une personne pour aller se débarrasser d'une arme?
C'est quelque chose qui interroge. C'est que des ennuis en perspective.
Qui avait été évoqué à l'époque du procès, c'était un peu pour mettre une pression à Méziane Belkacem en lui disant attention, le vicomte, il fait partie des services secrets, il est proche du gouvernement. S'il y a un problème, il est là et il va nous protéger. Ouais. Et c'est ce qu'avançait en tout cas, c'est ce qui a été dit à l'audience. Hein.
Ouais.
Mais sinon, les deux ensemble, Méziane et et à Maurice d'Harcourt, franchement, ça me paraît compliqué.
Alors, maître, donc vous allez... qui est votre interlocuteur pour l'instant? Personne encore Alors,
pour l'instant, personne. Ce qu'on va préparer, on ne va pas faire de demande de révision de but en blanc. On va faire ce qu'on appelle, on est en train de préparer des demandes d'actes.
C'est cette demande d'actes dont vous parliez
la
tout à l'heure.
La loi a radicalement changé grâce à deux personnes dont il faut citer le nom et un travail exceptionnel, Georges Fenech et Alain Touret. Georges Fenech, ancien juge d'instruction de droite. Ouais. Alain Touret, ancien avocat de gauche. Ouais. Les deux présidents de la commission de l'Assemblée nationale sur le projet de loi sur la révision, s'entendant comme larron en foire, et ayant fait un travail remarquable d'audition de spécialistes, de praticiens, de journalistes.
Pour dire comment mettre le plus de chances du côté de gens qui contestent une décision de justice.
On n'a pas découvert toutes les erreurs judiciaires. Il y a des erreurs qui sont cachées sous le tapis. Ouais. C'est de l'intérêt de personne de les y laisser. Il y a des coupables dehors et il y a des innocents dedans.
Bien sûr.
Donc, ça intéresse tout le monde de remettre les choses à leur place. Et donc, une des propositions que j'avais été entendu, que j'avais faite, c'était de leur dire, il faut qu'on puisse permettre à un condamné définitif de faire une demande d'acte. Moi, c'est le dossier Marc Machin qui m'avait frappé.
Oui, Marc Machin qui avait été
accusé et condamné.
Accusé à tort, bien sûr, condamné.
D'avoir tué une joggeuse. Voilà. Et sous les ongles de la joggeuse, il y avait des prélèvements ADN. C'était pas celui de Marc Machin, mais on les avait pas analysés parce que Marc Machin avait avoué en garde à vue.
Parce que c'était un tel coupable idéal, bien sûr.
Bien sûr.
Alors, on va reprendre, on a encore quelques minutes devant nous dans un petit instant, pour parler aussi de la question du mobile et pour peut-être s'intéresser à ce couple. Parce que quand on se dit, ah ben alors, il y avait peut-être de l'eau dans le gaz, comme on dit, dans le couple, quel aurait pu être le mobile de Jean-Michel Bissonnet? On va en parler tous ensemble dans un tout petit instant.
Jacques Pradel, l'heure du crime.
Nous sommes donc toujours avec Michel Marie, le journaliste, et maître Sylvain Cormier. On parle de l'affaire Bissonnet avec donc cette volonté de cet homme qui a passé 9 ans de réclusion, condamné à 20 ans de prison, en liberté conditionnelle. Il n'a pas le droit de s'exprimer, je crois que
il n'a pas le droit de s'exprimer. Ça fait partie d'une des conditions de sa liberté.
Et bon, il pourrait se faire oublier. Ben non, il s'adresse à vous, à d'autres, pour maintenant engager un processus, on va dire, de révision de sa condamnation pénale. Alors, vous nous disiez, vous allez faire des demandes d'actes, mais je disais aussi que, finalement, dans cette histoire, alors, évidemment... on se pose toujours la question, dans un couple, quand l'un des membres du couple meurt comme ça, est-ce que ça peut pas être quelque chose de passionnel, des relations? Ce couple, vous le décririez comment? Vous le connaissez finalement sur papier, les relations, mais il vous parle des relations qu'il avait. Tout à l'heure, vous disiez il aime encore sa femme.
Oui,
il en parle?
Oui, il en parle très souvent. Et quand on lit le dossier, ce qui est assez frappant, c'est qu'on a une quasi-unanimité pour dire que c'est un couple qui s'entendait vraiment très bien.
Et il y a forcément pas de problème d'argent, on est d'accord.
Pas de problème d'argent. Elle est aussi riche que lui.
Enfin, ils ont une certaine fortune quand même. Hein.
Et puis elle a sa propre activité, elle est pharmacienne. Son activité marche très bien. Il a vraiment aucun mobile. Ouais. Et on évoque.
Quel mobile la justice a-t-elle avancé?
C'est un problème, ils n'en ont pas. On a essayé d'en créer un artificiellement. Elle a dit oui, il a consulté des sites pornographiques. Ça voulait dire que le couple n'allait pas si bien. C'est vous dire à quel point on a dû aller chercher loin des prétextes.
On a trouvé
des consultations.
Sauf qu'elles n'avaient pas été activées. Donc il n'est jamais allé sur les...
Non.
Oui, j'ai lu ça dans le dossier. Voilà quoi.
Donc très artificiellement, on a essayé de dire tout n'est pas si rose dans ce couple.
Mais elle n'avait pas d'amant.
Non.
Je pose une question.
Plus.
On ne va pas faire de langue de bois.
Mais c'est important.
Oui, Michel Marie, c'est toutes les questions qu'on se pose toujours dans ce genre de...
Dans ce dossier, je pense que le mobile a été un petit peu égaré parce qu'on avait deux co-accusés qui désignaient Jean-Michel Bissonnet. Donc ça, c'est le premier point. Sinon, ce qui se dégage au moment du procès, c'est que l'argent, c'est elle qui l'avait. Et il avait investi dans ses affaires. Grâce à son argent, elle lui a fait vendre sa pharmacie. Enfin, elle avait, de plein gré, vendu sa pharmacie. Oui. Elle avait mis à disposition une somme importante d'argent. Et lui, qui est un magicien de la finance, avait réussi à faire prospérer
tout ça. Voilà,
fructifier.
Et ils avaient une maison qui était une maison
une extraordinaire maison. Je crois qu'elle faisait 25 pièces. Ouais. Il était très attaché à cette maison. Ouais. Elle, au moment de sa mort, était très en retrait. Elle sortait peu, elle faisait du sport, elle mangeait bio, elle avait une vie, elle menait une vie très réglée, et lui s'en plaignait un peu en disant que bon, finalement, il s'ennuyait un peu. On imagine... Ça fait pas un mobile, on est bien d'accord.
On imagine que les services d'enquête ont dû passer au crible
ils ont vraiment
les
cherché,
moindres éléments de la vie de l'un et de l'autre, quand même.
Non, là, il n'y a rien.
Alors, du point de vue du qu'est-ce que vous pouvez dire sur les demandes d'actes? Je ne veux pas vous passer à la question.
Alors, non, mais je ne peux pas rentrer dans les détails, mais je peux dire plusieurs choses. Moi, je suis persuadé que tout le monde n'a pas tout dit ou n'a pas dit toute la vérité.
Ah, d'accord.
Moi, je pense que les gens vont parler.
Donc, ça veut dire qu'on peut demander comme acte de réinterroger, d'auditionner.
Oui. Moi, ça, c'est une piste très sérieuse que j'envisage. Oui. Il y a des analyses techniques que l'on peut demander. Elles sont compliquées, mais je vous donne un détail tout bête. Le dessus de lit a disparu. Le couvre-lit a disparu. On a passé la maison au crible. Ce couvre-lit, à quoi il a pu servir?
Alors, en revanche, il y a une somme d'argent très importante qui n'a pas été touchée. Volée.
Moi, c'est pour ça que je crois vraiment au vol, avec un assemblage hétéroclite, improvisé, qui tourne mal, ils sont surpris, et puis...
Donc là, vous allez demander certainement des auditions, indiquer des pistes éventuellement à creuser à nouveau.
Oui, et je vais aller plus loin. Je pense que cette enquête a été menée à charge. Vous avez évoqué plutôt un tournant dans le procès qui fait abandonner le dossier par mon confrère Darrigade, ce qui est interprété comme un aveu de culpabilité par tout le monde, tous les commentateurs d'ici.
Parlons-en. Ouais. Subornation de témoins, parce que les gens ne savent pas exactement. Ça veut dire trouver un témoignage de quelqu'un pour l'innocenter.
De complaisance.
Voilà, de complaisance en promettant de l'argent. Ouais. Et alors lui, il va répondre, il va dire « Mais moi, tout le monde ment en m'accusant, donc moi aussi je mens. » Bon, c'est un peu court comme réaction. Les jurés de son côté quand même.
C'est maladroit.
C'est peut-être très maladroit, je ne sais pas s'il a dit les choses comme ça.
Sous la plume de certains de nos confrères.
On s'aperçoit dans le dossier qu'en fait il est victime d'une tentative d'escroquerie, c'est très clair. Il a un co-détenu qui lui dit « Moi je sais des choses, et tout le monde sait qu'il est riche. Je sais des choses, je sais que ce n'est pas toi, et je peux te décrire comment est la maison, preuve que je sais des choses. » Et Bissonnette tombe dans le panneau. Se dit « Mon salut est peut-être là, mais c'est un homme désespéré aux abois. » Les gendarmes en ont quasiment la conviction, le disent aux témoins « Vous pourriez être poursuivi pour escroquerie. » Le procureur ne poursuit pas, c'est pas normal. Du coup, une espèce de doute subsiste qui est éminemment défavorable à Jean-Michel Bissonnette. Ça a pesé très lourd.
Bien sûr.
Mais c'est une injustice qu'on lui a faite et l'enquête pour ça était tout à fait partielle à charge. Les enquêteurs savaient qu'il y avait une tentative d'escroquerie à l'encontre de Bissonnette.
Ça va être, vous êtes un peu comme un sportif qui s'apprête à la compétition, là, non, j'ai l'impression.
Vous sentez remonter.
Et ses enfants sont toujours avec lui
Alors, on en a parlé. Pour les enfants, c'est très dur. Je pense qu'il...
Parce que c'est leur mère qui est morte.
C'est leur mère qui est morte. Et je pense que remuer ce passé extrêmement douloureux est pour eux une blessure qu'ils redoutent vraiment. Et je dois honnêtement, si on dit les choses honnêtement, c'est accueilli, je crois, avec beaucoup d'angoisse et d'appréhension par les fils.
Voilà. Écoutez, je vous remercie d'avoir fait le point avec nous, maître.
Merci à vous.
Merci infiniment. Merci Michel Marie. Vous allez suivre ça comme nous, évidemment.
Bien sûr.
Donc on racontera ça sur l'antenne d'RTL et dans les colonnes du Nouveau Détective. Je vous remercie beaucoup. L'émission est maintenant terminée.